Connaissez-vous la réponse à la question suivante? Est-ce qu'il y a un prix à payer pour suivre Dieu? La parole de Dieu va nous dire si on a bien répondu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a plusieurs bonnes questions à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui et j'ai bien hâte d'entendre les réponses de Dieu. Alors voici les questions. Est-ce que Esther est devenue reine par chance? Est-ce qu'il arrive à Dieu de nous protéger sans qu'on le sache? Est-ce que la Bible décrit l'humanité telle qu'elle est? Est-ce que Dieu oublie ce qu'on fait pour lui? Est-ce que toute désobéissance a des conséquences? Est-ce que les gens le remarquent quand on est fidèle à Dieu? Est-ce qu'il y a un prix à payer pour suivre Dieu? Dieu est-il fidèle à ses promesses? Est-ce que l'insécurité d'un croyant ou son désir ardent d'être le premier peut faire du tort à l'Église de Dieu? Ne quittez pas. Le Seigneur a de bonnes réponses pour chacune de nos questions et il va nous les donner par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, tu vas nous parler aujourd'hui. On a confiance que c'est toi qui vas parler par la bouche de ton serviteur. Tu vas nous enseigner ta parole merveilleuse. Alors parle-nous, Seigneur, enseigne-nous ta parole et aide-nous à la mettre en pratique. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le roi perse a ordonné que l'on amène dans sa maison royale les plus belles filles de toutes les provinces afin qu'il puisse choisir une nouvelle épouse qui deviendra reine. Nous avons fait la connaissance de Mardoché, un juif qui avait été amené en captivité et qui avait maintenant une situation à la maison du roi, à Suse. Mardoché avait élevé sa cousine Esther après la mort de ses parents. En fait, il l'avait adoptée. Esther fut parmi les nombreuses jeunes filles choisies pour être présentées au roi. Égaï, le gardien des femmes, la remarqua et lui accorda des privilèges et des faveurs, percevant qu'elle avait d'excellentes chances de devenir reine. Nous voyons déjà la providence de Dieu, qui sait qu'il devra sauver son peuple. Malgré que Mardoché et Esther n'aient pas servi Dieu de façon consciente et volontairement, celui-ci les plaça dans cette situation pour accomplir ses desseins. Ces événements peuvent illustrer la différence entre le monde et le royaume de Dieu. Les gens du monde n'ont que des joies éphémères et ils passeront l'éternité loin de Dieu. Les enfants de Dieu sont élevés dans le royaume de Dieu et il leur donne au-delà de leur espoir. Aujourd'hui, nous reprenons l'étude au verset 16. Esther est présentée au roi. Chers amis, débutons notre lecture. Esther chapitre 2, versets 16 et 17. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasti. Lorsque le roi vit Esther, il mit fin à sa recherche d'une reine. Le concours était terminé, car il avait trouvé la fille idéale pour remplacer la reine Vasti. Esther fut couronnée reine. Notez que cela fait 4 ans que Vasti perdit la dignité de reine. Nous sommes dans la 7e année du règne d'Assuérus, et le festin qui entraîna la destitution de Vasti eut lieu la 3e année de son règne. Assuérus est un titre, et les historiens pensent qu'il est très probable que le nom du roi fut Xerxès. Il a subi une défaite militaire décisive aux mains des Grecs, la 6e année de son règne. Donc, le roi avait vraiment besoin qu'on lui remonte le moral. Dieu prépare la défense de son peuple avant qu'Aman décide de l'exterminer. Comment Esther est-elle arrivée à cette position? Était-ce accidentel? Était-ce dû à la chance? Je ne le crois pas. Elle fut choisie grâce à la providence de notre Dieu Tout-Puissant. Nous verrons au prochain chapitre qu'il était nécessaire que Dieu prévoie des arrangements pour sauver son peuple. Il fit cela en faisant d'Esther la reine. C'est pour cette raison que nous avons eu droit à un coup d'œil sur le banquet et les orgies qu'eurent lieu dans la maison du roi. Dieu veut que nous percevions qu'il est au contrôle malgré les actions des hommes et de Satan. Ceci devrait être un encouragement et une consolation pour les enfants de Dieu de nos jours. Servir et adorer le Dieu souverain, celui qui est assis au-dessus de toutes choses. Plusieurs textes de la Bible nous précisent que Dieu est assis au-dessus de toutes choses. Mais entre autres, lisons Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le texte précise que le roi aima Esther, mais je dois admettre que je ne suis pas impressionné par cela. Dans le livre de Ruth, l'amour entre Boaz et Ruth illustre la relation d'amour entre Dieu et son Église, mais nous ne voyons pas ce type de relation amoureuse entre Assuérus et Esther. Nous sommes en présence d'un roi déçu par une défaite militaire et déçu d'avoir chassé une reine qu'il aimait, mais qu'il ne pouvait plus rappeler vers lui. Nous avons un roi qui n'est plus jeune, qui épouse une belle jeune fille. C'est un roi païen qui n'a aucune idée de ce qu'est un couple qui s'aime dans le Seigneur. J'éprouve de la difficulté à voir ici une illustration de l'amour entre Dieu et son Église, comme le font certains commentateurs. Chers amis, Dieu nous protège parfois sans qu'on le sache. Cependant, l'événement est très important. C'est épatant de voir cette fille, provenant d'un peuple en captivité, devenir, du jour au lendemain, la reine d'un des plus puissants empires païens qui ait existé sur terre. La vague d'antisémitisme qui arrivait aurait exterminé le peuple juif, et le plan de Dieu pour Israël aurait été défait. Mais lorsque le danger frappera son peuple, Esther sera déjà en position pour le sauver. C'est Dieu qui l'a placé sur ce trône. Verset 18. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Le livre a débuté avec un banquet et maintenant nous en avons un autre, un banquet en l'honneur d'Esther. Puisque le roi a une jolie reine pour remplacer Vasti, le roi accorda un congé d'impôt pendant un an. C'est un sens que peut avoir le mot hébreu traduit ici par « repos ». Si un chef d'État faisait cela aujourd'hui, le monde serait renversé. Il est intéressant de noter que le roi avait l'autorité de suspendre la collecte d'impôts. Verset 19. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Mardochée a une nouvelle position, pas un travail, mais une position. Il est assis à la porte du roi. Cela signifie qu'il est un juge. Les juges examinaient les causes à la porte de la ville à cette époque. La plupart des villes avaient des murailles, et tous devaient passer par la porte tôt ou tard. La cour se réunissait à la porte de la ville, non dans un palais de justice. Boaz s'est rendu à la porte de la ville pour régler la question du droit de rachat et pouvoir prendre Ruth comme épouse. Lot était aussi assis aux portes de la ville, ce qui signifie qu'il s'était impliqué dans la politique de Sodome et qu'il était devenu un juge. La Bible décrit l'humanité telle qu'elle est. Esther devient reine et maintenant Mardochée obtient un poste de juge et il siège aux portes de la ville. C'est un exemple de népotisme. Oui, j'ai bien dit népotisme. La parenté est favorisée lorsqu'il est temps de remplir un poste, c'est-à-dire qu'il y a eu du favoritisme. Nous ignorons si Mardochée fut nommé pour ses qualifications ou si parce que Esther a soufflé un mot pour lui à l'oreille du roi. Mardochée fut un père pour moi. C'est un homme habile qui devrait avoir une position intéressante. Le roi dut répondre, « Bien, il y a un poste de disponible aux portes de la ville. Je vais le lui donner. » Ce livre décrit bien l'humanité et la politique n'a pas changé depuis le temps. Il y a eu, il y aura toujours, du favoritisme. Verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Cette fille est remarquable. Même après avoir épousé un roi puissant, elle reçoit des conseils et des directives de l'homme qui l'a élevée. Je pense que Mardochée est un personnage exceptionnel de la Bible, à qui nous ne donnons pas suffisamment d'attention. Il semble qu'il ait été un homme très habile. Maintenant, il se produit un incident qui ne semble pas avoir de rapport à notre récit, mais la suite des événements sera modifiée à cause de cet épisode. La providence de Dieu est déjà à l'œuvre, chers amis. Poursuivons la lecture. Esther 2, versets 21 à 23. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. L'incident est intéressant. Mardochée était assis à la porte du roi et malgré la foule, il entendit deux hommes parler. Il comprit que les deux hommes complotaient pour assassiner leur roi. Mardochée transmit immédiatement le renseignement à Esther. La scène est familière. Un régent oriental et des membres de sa cour qui désirent l'assassiner. Les intrigues étaient fréquentes dans les cours orientales. Il y a toujours quelqu'un qui veut prendre la place du roi sur son trône. La nouvelle position de Mardochée lui permit d'entendre une conversation qui n'était pas destinée à ses oreilles. Mardochée informa la reine, qui, à son tour, informa le roi. Elle a pu dire au roi, « Te rappelles-tu de Mardochée que je t'ai recommandé pour le poste de juge? Il fait déjà du bon travail. Il a déjà découvert un complot pour t'assassiner. » Une enquête fut faite, et l'existence du complot fut confirmée. À cette époque, l'argent des contribuables n'était pas dépensé en procès interminables. Le roi ordonna qu'on pende les coupables. Cela servit d'avertissement à tous ceux qui auraient pu être tentés de tuer le roi. La condamnation était barbare, mais on ne tolérait pas le désordre et on ne dorlotait pas les criminels, comme c'est le cas aujourd'hui. L'incident fut enregistré dans les chroniques du roi de Perse. Rappelons-nous. C'est Dieu qui est au contrôle. Notez l'omission. Mardochée ne fut pas récompensé pour avoir rendu service au roi. Il a dû se demander pourquoi le roi n'avait pas exprimé de gratitude et ne l'avait pas récompensé. Il méritait certainement un petit quelque chose. Pourquoi cela se produisit-il? Encore une fois, Dieu se prépare à sauver son peuple par sa providence. C'est Dieu qui est au contrôle. Dieu n'oublie pas ce que nous faisons pour lui. Le roi fit inscrire dans ses registres que Mardochée avait dénoncé le complot contre lui. De même, Dieu observe et inscrit ce que nous faisons dans un registre. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Citation d'Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Les livres seront ouverts le jour du jugement, et nous recevrons des récompenses en fonction de notre service pour Dieu, de notre fidélité dans les choses qu'il nous a confiées. Comme Mardochée, nous avons peut-être à attendre pour notre récompense, mais elle viendra un jour. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux chapitre 6, verset 10. Revenons à notre texte. Débutons la lecture du troisième chapitre du livre d'Esther. Verset 1er. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Toute désobéissance a des conséquences, chers amis. Maintenant, nous faisons connaissance d'un autre personnage principal de notre récit. Aman est un Agagite, c'est-à-dire membre d'une famille royale des Amalécites que Saül aurait dû exterminer lorsque Dieu lui en avait donné l'ordre. La désobéissance de Saül a quasiment entraîné le génocide du peuple de Dieu. Mais Dieu travaille toujours dans l'ombre. Verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Assuérus avait ordonné à tous de se prosterner devant son nouveau premier ministre. Mardochée devait aussi se prosterner au passage d'Aman, car il était un fonctionnaire d'État. Tous les courtisans se sont prosternés devant Aman, sauf Mardochée. Ces gens n'étaient que des pantins. Si l'on est fidèle à Dieu, cela se remarque. Maintenant, nous percevons pour la première fois la main de Dieu dans la vie de Mardochée. Celui-ci n'est pas dans la volonté de Dieu, car il devrait être en Palestine. Cependant, il a encore une crainte de Dieu. Même s'il ne prie pas Dieu dans ce livre, il refuse de plier le genou devant Aman. La loi mosaïque interdisait aux Israélites de se prosterner devant quiconque, sauf Dieu. Ils ne devaient pas se faire de statue ni d'image pour se prosterner devant elle. Lorsque Aman obtient le plus haut poste après la royauté, tous les princes et les fonctionnaires se prosternent devant lui. Puisque Mardochée est le seul à ne pas le faire, il se fait immédiatement remarquer. Mardochée et Esther ne furent pas assez fidèles pour retourner à Jérusalem, mais ils le furent assez pour risquer leur vie afin de sauver leur peuple. Mardochée monte maintenant dans mon estime. Versets 3 et 4. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Il a un prix à payer pour suivre Dieu. Oui, chers amis, nous avons un prix à payer pour suivre Dieu. Mardochée révèle sa nationalité lorsque les serviteurs du roi lui demandent d'expliquer sa désobéissance au roi. Jusqu'ici, il avait gardé ce renseignement secret et il avait demandé à Esther d'en faire autant. Même le roi ignorait qu'Esther était juive. En admettant qu'il était juif, Mardochée affirme aussi qu'il n'adore que le seul vrai Dieu. Il ne se prosterne pas devant les idoles ni les hommes. On lui avait enseigné Deutéronome chapitre 6 verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Mardochée devait être un témoin de Dieu dans le monde païen. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde athée et nous devons proclamer la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tous savent maintenant pourquoi Mardochée ne se prosterne pas devant Aman. Mardochée refuse de faire des compromis et il ne perçoit pas le prix qu'il aura à payer pour sa fidélité. Il croyait peut-être perdre son emploi ou sa vie, mais il n'aurait jamais pensé à un génocide de son peuple. Versets 5 et 6. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Ici, nous voyons la petitesse d'Aman. Il aurait dû ignorer Mardochée, alors que Mardochée se manifeste comme un homme de Dieu. Aman manifeste toute la laideur d'un homme de Satan. Nous verrons dans la suite de ce récit qu'Aman était un homme faible. Nous allons le voir pleurer sur l'épaule de sa femme. Il va prononcer des paroles à cet effet. « J'ai tout ce que je désire au monde. Je peux avoir quoi que ce soit dans le royaume, mais ce petit juif ne se prosterne pas devant moi. » Seul un homme faible se laisse déranger par une telle chose, et il permet au geste de Mardochée de le déranger énormément. Dieu est fidèle à ses promesses. Aman va tenter de faire une chose terrible. Il va essayer de faire périr tous les Juifs qui habitent dans le royaume d'Assuérus. Il devait ignorer que Dieu avait promis à Abraham qu'il bénirait ceux qui béniraient sa postérité, et il maudirait ceux qui la maudiraient. Cependant, Dieu est fidèle à ses promesses. Personne n'a jamais pu exterminer les Juifs au cours de l'histoire, et cela est un miracle. Dieu a préservé son peuple à plusieurs reprises. Nous le verrons protéger les siens dans le livre d'Esther. Si Dieu a toujours pu susciter des hommes fidèles et intègres pour faire avancer ses plans, nous ne pouvons pas toujours en dire autant des chefs d'État. Nous nous demandons ce qu'Assuérus voyait dans Aman. Il ne méritait certainement pas que tous s'inclinent devant lui. Il était loin d'être digne d'un tel honneur. Non seulement fait-il tout un plat d'un homme qui refuse de s'agenouiller devant lui à cause de ses convictions religieuses, mais il veut le faire mourir, et non seulement lui, mais tout son peuple. Aman se sentait peut-être menacé, et il voulait peut-être protéger son poste de premier ministre. L'insécurité nous fait parfois faire des choses étranges pour nous protéger d'une menace perçue, qui ne soit pas nécessairement une menace réelle. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Citation d'une lettre de l'apôtre Jean, sa troisième lettre, versets 9 et 10. Il prévient l'Église des dangers d'un être méchant à leur égard. Est-ce que votre insécurité ou votre désir ardent d'être le premier vous fait faire du tort à l'Église de Dieu? Nous pouvons comprendre un tel comportement parmi les gens du monde, où c'est une véritable jungle fonctionnant selon la loi du plus fort. Les loups se dévorent entre eux, et nous ne sommes pas étonnés que quiconque qui a un poste se protège. Mais parmi le peuple de Dieu, si nous sommes dans la volonté de Dieu, là où il nous veut, en train d'accomplir ce qu'il veut que nous fassions pour lui, nous n'avons pas à nous inquiéter. Dieu veille sur les siens. Il l'a promis, il le fera encore. As-tu vécu une telle expérience avec Dieu? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Esther chapitre 3 verset 7 à chapitre 4 verset 2.
Merci beaucoup, Réjean. C'est tellement bon d'entendre parler de la fidélité de Dieu, de réaliser qu'il tient toutes ses promesses. Il n'est pas oublieux comme nous, heureusement. Mes amis, Dieu a toujours protégé les Juifs au cours de l'histoire. Il n'a jamais permis que qui que ce soit puisse les exterminer. Comme Réjean l'a mentionné, Dieu avait promis à Abraham qu'il bénirait ceux qui les béniraient et qu'il maudirait ceux qui les maudiraient. Et il a tenu sa promesse. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. De nos jours, quand on lit dans la parole de Dieu, on peut voir plein de belles promesses que Dieu fait à ceux qui lui appartiennent. Et puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Il tient encore ses promesses parfaitement. Mes amis, j'aimerais vous encourager en citant certaines de ses promesses, celles qu'il fait à ceux qui ont placé leur confiance en Jésus pour être sauvés, pour devenir des enfants de Dieu. Dans le deuxième chapitre de la première épître de Jean, au verset 24 et 25, il dit « Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Et dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 12, il dit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans son épître aux Galates, au chapitre 4, versets 6 et 7, Paul dit quelque chose à ceux qui sont devenus des enfants de Dieu. Il dit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Imagine, mon ami, si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu vas hériter avec ses autres fils et filles. Veux-tu savoir ce que tu vas hériter par la grâce de Dieu? Tite nous le dit dans le troisième chapitre de son épître au verset 7. Il dit que, justifié par la grâce de Dieu, on devient héritier dans l'espérance de la vie éternelle. Un enfant de Dieu hérite de son papa du ciel, tout comme généralement un enfant hérite des biens de ses parents. Mais les biens de nos parents vont périr un jour, tandis que la vie éternelle, eh bien, c'est la vie éternelle. C'est une vie dans la présence de celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est une vie dans la présence de Dieu, dans la joie, dans la paix, dans l'amour parfait. Cet amour qui a fait que Dieu a envoyé son Fils unique pour prendre sur lui le châtiment qu'on méritait tous pour nos péchés. Il y a payé la dette en entier. Et toi, mon ami, es-tu un enfant de Dieu? Es-tu un héritier de son royaume? Tu n'as rien à faire pour le devenir. Tu n'as qu'à croire en Jésus seul pour le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Repens-toi, mon ami. Prends la direction contraire à celle du péché et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il est là présentement. Ses bras sont grands ouverts. Il veut te recevoir, t'accueillir. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Il a payé cher. Il a donné sa vie sur une croix pour toi. Il s'est laissé clouer les mains et les pieds par amour pour toi. Reçois cet amour. Reçois le don gratuit de la vie éternelle. N'attends pas.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais savoir, j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.